Il trône fièrement sur la place de Jode et pourtant reste un peu caché, n'est pas grandiloquent ou extravagant. Eh bien, on est comme ça en Auvergne, on aime cacher nos joyaux par pudeur ou par souci de discrétion. L'Opéra Théâtre de Clermont-Ferrand, anciennement Opéra Municipal, est un petit joyau encore trop méconnu. Construit entre 1891 et 1894, sous la direction du maire de l'époque, Amédée Gasquet, il a remplacé le théâtre de la Place Royale, jugé à l'époque trop petit. Il manquait une salle d'ampleur, la voici, et c'est le directeur actuel de Clermont-Auvergne Opéra, Pierre Thirion-Vallée, qui nous la présente, lui qui la connaît depuis sa plus tendre enfance et le mieux placé pour nous en parler.
C'est un théâtre à l'italienne, dans notre jargon, c'est un théâtre en forme de fer à cheval, qui a une très très belle acoustique, qui a 3 étages pour le public, qui a été inauguré en 1894 et qui a été construit au-dessus d'une halle aux toiles, en fait, d'un endroit qui était plutôt un endroit de commerce et qui reste d'ailleurs une zone commerçante, le rez-de-chaussée de ce bâtiment, et qui a donc connu une très belle histoire tout au long du XXe siècle, un bâtiment où on a eu de l'opéra, du théâtre, des chanteurs, beaucoup de choses se sont passées, et maintenant, il faut dire que c'est un peu le lieu emblématique de l'opéra, de Clermont-Auvergne Opéra, donc de l'art lyrique, mais aussi de l'Orchestre National d'Auvergne, mais aussi du Conservatoire et d'autres, les Amis de la Musique, d'autres utilisateurs. Mais c'est un très beau lieu parce qu'il a une belle acoustique, il a un lieu chargé d'histoire d'abord, évidemment, fin 19e, avec des dorures, avec une architecture qui est quand même très particulière, des sièges en velours, une ambiance, on l'entend là, voilà, qui résonne bien, et qui résonne bien pour la voix parlée et surtout la voix chantée. On peut très bien chanter sur ce plateau sans micro et être entendu par les 600 personnes qui sont là, alors que l'orchestre est dans la fosse devant. C'est la magie de l'opéra. On est comme à l'intérieur d'un violon, en fait. Les voix résonnent naturellement, les voix d'opéra, et elles remplissent cet espace qui résonne. Et depuis les travaux, on a réinauguré donc cet opéra en 2013, après d'importants travaux qui le restituent comme il était quasiment en 1894. Donc on a enlevé les moquettes, on a enlevé tous les tissus qui mangeaient le son, et on retrouve cette ambiance qui fait qu'on est au plus près de l'artiste quand il s'exprime sur le plateau.
On compare souvent l'Opéra de Clermont à la version réduite de l'Opéra Garnier de Paris. Il souffre aussi parfois de la comparaison avec l'Opéra de Vichy, style Art Nouveau, inspiré de l'époque napoléonienne
et beaucoup plus impressionnant. Alors, il m'est cher au cœur parce que moi je suis clermontois, mais
surtout, les atouts de
il a une taille humaine qui est intéressante.
Vichy
est un très bel opéra
unique.
De presque 1400 places, donc c'est avec une formidable acoustique. Art Nouveau, enfin vraiment superbe opéra. À Clermont, effectivement, plutôt le style Garnier, fin 19e, mais une belle proximité entre les artistes et le public. Je vous dirais par exemple que certains grands noms, Philippe Jaroussky ou autres, Nathalie Dessay, qui sont venus chanter ici, et chaque fois qu'ils viennent et qu'ils viennent pour la première fois sur le plateau, je vois des étoiles dans leurs yeux en se disant je vais chanter et le public sera à quelques mètres, quoi. Je vais vraiment avoir cette proximité. Moi j'ai chanté à l'Opéra Bastille plusieurs fois, et c'est vrai que quand on est sur le plateau de l'Opéra Bastille et qu'on voit le premier rang du public si loin, au-dessus de cette fausse orchestre qui est monumentale, quelquefois on a l'impression d'un grand vaisseau et d'être tout petit, écrasé par ce grand vaisseau. Donc cette proximité-là, clairement, est intéressante pour la musique de chambre, pour les opéras style Mozart, etc. Pour les plus grands formats d'opéra, on va à la Maison de la Culture, on a donné une Traviata avec succès au mois de janvier, où effectivement on avait un plus grand plateau, on a 1400 personnes qui toutes voient bien le plateau aussi, donc voilà, alors il faut encore travailler un peu l'acoustique de la Maison de la Culture, ça je le concède. Mais ici, au Théâtre de Clermont, on a une très belle acoustique, je le répète, et ça c'est important, parce que c'est primordial. On aide la voix et la musique par une acoustique bien travaillée, et puis on est dans un lieu qui est quand même assez extraordinaire. Si on va à l'Opéra de Vichy, si on va à l'Opéra Garnier, c'est parce qu'on a envie d'être un petit peu dépaysé, on a envie de rêver, on a envie d'être ailleurs. Vous savez, moi, les salles un peu comme ça, brutes de décoffrage, sans décor, etc., ça me donne souvent un peu l'impression d'être du bétail dans une ferme, et encore que j'adore les fermes, je trouve que c'est bien aussi d'avoir ce décor qui, évidemment, est un peu baroque, un peu, voilà, mais c'est cette histoire-là aussi qui nous concerne et qui nous a fait. Donc, vraiment, venez à l'opéra pour cette proximité, parce que vous verrez de près, finalement, les artistes, les décors, les costumes, et vous entendrez très très bien les chanteurs, vous comprendrez tout. En plus, on a un système de surtitrage ici, donc on a une traduction française de tout ce qui est chanté, donc la compréhension vraiment est top. C'est une belle maison.
Il est souvent dit qu'il n'y a pas de questions bêtes, et c'est vrai. Nous avons demandé un peu naïvement à Pierre Thirion-Vallée Ça sert à quoi un opéra? Et si la question le fait sourire, c'est justement parce qu'il ne la trouve pas bête. Non, plutôt pertinente même, afin d'offrir une réponse riche en enseignements. Alors, ça sert à quoi un opéra?
À quoi sert la culture? Eh bien, ça sert à être un peu moins bête, ça sert à sublimer tous les épisodes de la vie que l'on peut vivre, ça nous sert à accepter la vie telle qu'elle est et en assumer ses défauts et sublimer toutes ses qualités, en fait. Un opéra, c'est le poumon culturel. Alors, il y a évidemment la scène nationale, aussi, il y a la coopérative de mai, il y a des musées, il y a plein d'autres endroits de culture dans une ville, ou en tout cas comme Clermont-Ferrand, comme la métropole. Mais un opéra, c'est le cœur battant d'une ville. D'abord parce que l'opéra a été inventé il y a plus de 400 ans et que dans chaque ville, quasiment en France depuis Louis XIV, on a construit des opéras justement pour que les gens se réunissent, écoutent des œuvres du théâtre, de la voix de la danse ou évidemment aussi de l'opéra, donc du chant, du théâtre chanté, mais tout simplement pour partager un moment de spectacle vivant. C'est un endroit de partage, un endroit où tout le monde s'arrête de respirer au même moment, où on partage des émotions, on est ému, on a envie de pleurer. On a envie de rire, on rit ensemble. C'est être ensemble, c'est aussi un ciment au niveau de la société. Sans opéra, sans musée, sans livre, sans rien, on ne serait que finalement des machines et la vie serait vraiment très triste.
Mais si l'opéra est l'occasion d'être un lieu de culture et d'art, c'est aussi un superbe passeur d'histoire. En tout cas, c'est ainsi que se sent le directeur de l'opéra quand il établit sa programmation comme un passeur d'histoire.
Je me sens vraiment comme programmateur, comme un passeur. Hein. Je suis là tout simplement dans le service public de la culture au niveau lyrique, comme quelqu'un qui doit donner accès en fait, au plus large public, accès à toutes les œuvres magnifiques de l'opéra. Donc on fait en sorte, et donc grâce... à cette politique culturelle qui est forte au niveau de la métropole, du plus jeune au plus âgé, toutes les œuvres soient disponibles, accessibles. Évidemment, on a besoin de les expliquer, maintenant on a un peu moins les clés hein, qu'au 19e ou 20e siècle. On est obligé de faire beaucoup plus d'éducation hein, pour faire comprendre les histoires, l'intérêt de venir encore dans cette salle pour s'asseoir, payer un billet quand même, qui coûte un peu d'argent, même si on a des tarifs assez accessibles ici. Et puis, pourquoi on viendrait pendant une heure, deux heures, trois heures, quatre heures quelquefois, pour écouter de la musique, écouter des chanteurs, pourquoi c'est important de le faire, pourquoi cette démarche est importante. Donc on fait beaucoup de médiation, de sensibilisation, pour que cette belle maison soit accessible à tous, y compris les personnes en situation de handicap ou de précarité, tout simplement. C'est vraiment la maison des artistes, le poumon, le cœur battant de la cité et qui doit être ouverte à tous.
Avec son aspect musical, théâtral, ses scènes qui ressemblent à des tableaux, à ses costumes presque cinématographiques, l'opéra ne serait-il pas un art pluriel de ceux qui mélangent les autres, qui les entremêlent? Eh bien, en tout cas, c'est un point qui mérite qu'on s'y arrête un peu.
C'est l'art le plus complet. L'opéra en tant que tel va associer à la fois la mise en scène, les décors, la danse, le théâtre, la musique, les arts visuels, évidemment. On a aussi de la vidéo. Donc vraiment, tous les arts sont mélangés. Et vraiment, on ne peut pas être plus complet. C'est aussi pour ça qu'il coûte cher. C'est pour ça aussi qu'actuellement, certains opéras ont des soucis financiers parce que dès qu'on lève un rideau, dès qu'on accueille du public, il a fallu payer tout ce personnel administratif, tout ce personnel... mais les musiciens, les techniciens, etc., ça fait beaucoup de monde. Évidemment que monter une pièce avec un comédien ou un solo de danse, ça coûte beaucoup moins cher sur une bande-son que quand on a 80 musiciens et puis 60 choristes et beaucoup de monde professionnel, très très talentueux, qui travaille dur. Donc, il faut se battre pour continuer à faire de l'opéra, c'est vraiment important.
Malgré tout ça, un cliché persiste, l'opéra, c'est pour les vieux. Ou plutôt, c'est un art qui prend la poussière, qui est coincé dans un remonteur de temps des siècles en arrière. Le stéréotype a la peau dure, et en plus, eh bien, il est injuste. Passons un coup de balai sur les idées reçues avec Pierre Thirion-Vallée.
Il faut tout simplement, alors, je pense, dès le plus jeune âge, au niveau de l'éducation, faire comprendre au public que tout ça, ça leur appartient. Hein, c'est comme dans un musée, dire pourquoi finalement on n'exposerait pas que du Picasso, parce que finalement tout ce qui a été peint avant, c'est pas grave, c'est pas important, c'est pas... voilà. Non, on peut avoir des émotions sur des œuvres très anciennes, baroques, et puis la musique contemporaine aussi, et puis Mozart, et puis tant de grands compositeurs d'opéra. Donc c'est important vraiment de jouer sur la médiation, la sensibilisation, et de faire en sorte aussi que la politique tarifaire cher, soit accessible. Il faut qu'on puisse, quand on dit que l'opéra coûte cher, c'est vrai, mais un billet d'opéra ne coûte pas plus cher que pour aller quelquefois au Zénith voir un chanteur de pop, quelquefois beaucoup moins d'ailleurs. Donc il faut arrêter ces idées aussi selon lesquelles l'opéra serait réservé à une élite qui connaît, et puis plutôt vieillissante, et puis qui a les moyens financiers. Non, les moyens financiers finalement grâce aux subventions, grâce à l'aide de la ville, de la métropole et de tout, de la région, département, l'État et des mécènes aussi, des grandes entreprises et les mécènes privés. Grâce à tous ces financements, on arrive à avoir un billet moyen qui est vraiment peu cher pour pouvoir s'installer ici, partager ces moments d'émotion, ça c'est important, pour faire société, pour être vraiment au mieux. Et puis l'opéra apporte des réponses à des questions existentielles, essentielles, que l'homme doit se poser. On n'est pas simplement un être fait pour regarder un écran et avaler des images sans réfléchir un minimum sur pourquoi on est là, comment on y va, notre finitude, la mort, l'amour, toutes les grandes épopées humaines qu'on va vivre dans une vie. Voilà, donc l'opéra apporte aussi beaucoup, beaucoup de solutions, parce que les histoires qui restent encore sont des histoires qui nous touchent et dans lesquelles on voit des héros, des héroïnes qui sont confrontés aux mêmes soucis que nous, et on se dit comment elle va s'en sortir de ça. Son père lui interdit de se marier, mais comment il peut aimer ça, ou pourquoi lui est aussi méchant, mauvais, pourquoi il arrive à tuer le voisin, etc. Donc voilà, on se pose des questions, on a quelques moments de divertissement, heureusement, mais l'opéra enrichit énormément.
Revenons à un sujet un peu plus terre-à-terre. Quitte à vous dévoiler les coulisses de l'opéra, autant évoquer ceux qui le font. Qui travaille dans un opéra? Qui sont les petites mains visibles ou non qui collaborent à la création d'un spectacle?
Beaucoup de monde depuis l'entrée. Vous avez tout le personnel d'accueil. On a le personnel aussi administratif qui gère la technique, les agendas, etc. Et puis tous les techniciens. Alors actuellement, on n'est pas en répétition cet après-midi. Donc les techniciens, ce sont les machinistes, ce sont les électriciens. Ce sont aussi, il y a les costumières, il y a les habilleuses, il y a des maquilleuses, etc. Donc il y a une foule de métiers différents. Et ça, pour les gens qui se disent « Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie ?» Venez un peu au spectacle vivant et voyez tous ces gens, même au son, à la vidéo, à la lumière. Enfin, je me répète, mais il y a beaucoup de métiers différents et qui sont passionnants, parce que le métier évidemment, on refait, j'allais dire, presque toujours la même chose. On est en charge de tel ou tel métier, mais le spectacle sera différent, les artistes seront différents, l'œuvre sera différente. Et j'aime beaucoup me balader en coulisses avec les techniciens et voir quelquefois ceux qui restent, ceux qui sont là pendant le spectacle et qui aussi jouissent autant que le spectateur d'ailleurs de la beauté de ce qu'ils ont construit, co-construit avec les artistes. Parce que un opéra, c'est pas que des chanteurs sur un plateau, il y a quand même tout ce monde autour et sans qui on ne serait rien.
Le mot de la fin avec la programmation de la saison, une saison assez folle, à en croire le directeur de Clermont-Auvergne Opéra, puisqu'en plus d'être le thème de l'année, c'est la couleur même que prend l'opéra qui ne manque pas d'ambition.
L'identité était liée à la « soyons fous », c'était le thème de l'année, donc vraiment à la sortie du Covid, on avait envie de délirer un petit peu. Alors ici, on aura en avril Alla Napoletana, un groupe de musique napolitaine qui vient et vraiment ça va être tout à fait réjouissant. On sera à la Maison de la Culture en fait fin mars pour Turandot, le dernier opéra de Puccini, donc là on est vraiment dans du grand, grand format. Et puis on finit ici au mois de mai avec le Baron de Münchhausen, qui est un opéra baroque, qu'Hervé Niquet va venir diriger, et c'est une espèce de folie baroque. La musique ancienne, quand je dis baroque, on est au 18e, en gros, synthétise, 17e, 18e, sonne très très bien ici. Donc c'est vrai que j'aime bien programmer cette musique-là. Mais on a à peu près tous les styles. L'année prochaine, on aura de la musique contemporaine, on aura du Mozart, on aura vraiment du Bellini, on aura des grandes voix qui viennent aussi en récital ici, au piano. Donc, dans un service public de la culture et en particulier du lyrique, il faut, je le répète, donner accès à toutes les œuvres. Il faut, dans une saison, sur une thématique donnée, essayer de donner toutes les formes du récital, de l'opéra, du concert, de l'oratorio, et puis de toutes les époques. Essayer de donner de la musique ancienne pour ceux qui aiment ça. Essayer de donner de la musique contemporaine, parce qu'il faut de la musique contemporaine. Ou de la musique classique comme Mozart, ou du bel canto comme Bellini, ou Rossini, etc. Ou Puccini, qui est le grand opéra vériste, qui va nous donner des frissons dans le dos. Voilà, il faut essayer de toucher un peu toutes ces cordes. L'art lyrique est multiple. Vraiment, depuis 400 ans, il y a eu énormément de compositions. Donc, je serais mort, j'en aurais pas touché un millième. Donc, après, mon successeur continuera. Mais on a besoin d'amener des œuvres du répertoire que tout le monde a envie d'entendre, Traviata, les Carmen, les Noces de Figaro, bon, très bien, mais il faut aussi donner tout le reste, et tout le reste, c'est la partie invisible de l'iceberg qu'il faut essayer d'amener au public.
Et pour en savoir plus et pour avoir accès à l'ensemble de la programmation de cette saison, toutes les infos sont à retrouver sur le site internet clermont-auvergne-opéra.com.